de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, sœur Zurita, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, sœur Zurita, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez maintenant le journal d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie, maintenant avec moi Audrey. On va vous informer quelques informations importantes. Entre autres, le serment des jeunes est un moment de consolidation des valeurs de Pancasila. Concernant le tabac, l'Indonésie peut apprendre du Japon. 5 zones touristiques stratégiques seront achevées en 2020. La beauté Lombok Sumbawa fait la promotion en Australie. Politique de bourse d'études Bidik Misi rend les ressources humaines vraiment supérieures en Papouasie. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le serment des jeunes est un moment de consolidation des valeurs de Pancasila. Le président de l'ensemble consultatif du peuple MPR, Bambang Susatyo, a souligné que la commémoration de la journée du serment des jeunes devrait constituer un élan pour établir et consolider des étapes concrètes dans la socialisation des valeurs de Pancasila. Bambang Susatyo, dans sa déclaration à Jakarta dimanche, a déclaré que la prise de conscience des jeunes de la nation avait donné naissance à une unité de grande pensée et à une vision nationale bien au-delà de son temps, jusqu'à l'indépendance du peuple indonésien en 1945. Il a estimé que l'esprit du serment des jeunes devrait animer l'esprit des jeunes afin de bâtir un meilleur avenir de la nation. Bambang Susatyo a déclaré que le progrès dans le domaine des technologies, de la formation et de la communication avait franchi les limites de la souveraineté du pays. Ce qui se passe n'importe où dans le monde peut être immédiatement connu. Il a déclaré que la circulation d'informations et de communications qui était facile et ouverte de plus en plus fournissait de nombreuses opportunités pour le progrès de la nation, tout en emportant des menaces dans un même temps. Concernant le tabac, l'Indonésie peut apprendre du Japon. L'expert en toxicologie de l'université Erlangga, Soim Hidayat, estime que l'Indonésie peut tirer des enseignements du Japon en matière de lutte anti-tabac. Selon Soim, sur la base des informations écrites reçues par écrit Antara dimanche, les produits du tabac chauffé ont un rôle important dans la réduction du nombre de fumeurs au Japon. Les produits du tabac chauffé sont un type de catégorie de produits de tabac alternatifs qui est différent des cigarettes électriques ou des cigarettes. Soim a déclaré que ce produit contenait du vrai tabac qui avait été formé pour rassembler à un bâton de cigarette ou à ce qu'on appelle une tige de tabac. Lors de son utilisation, les tiges de tabac ont chauffé à une température maximale de 350 degrés Celsius, de manière à produire de la vapeur qui étale la nicotine. Selon les données de la Société américaine du cancer, avant qu'il y ait les produits du tabac chauffé, la diminution du nombre d'achats de cigarettes au Japon n'était que de 1,8%. Après le lancement de ce produit, le nombre d'achats de cigarettes a diminué de 5,9%. 100 zones touristiques stratégiques seront achevées en 2020. Le ministre des Travaux publics et du Logement public, Basuki Hadimuljono, a déclaré que le développement des infrastructures dans 5 zones stratégiques de tourisme national (SPN) super prioritaires devraient être achevées à la fin de 2020. C'est ce qu'a affirmé le ministre Basuki dans une déclaration écrite reçue dimanche à Jakarta. Le ministre Basuki a également tenu une réunion avec plusieurs autres ministres le 26 octobre 2019. Selon lui, cette réunion était essentiellement un lieu de partager des informations entre le ministère des Travaux publics et du Logement public, le ministère des Transports, le ministère de l'Entreprise d'État, le ministre du Tourisme et de l'Économie créative et le Conseil de coordination des investissements, BKPM, en ce qui concerne les programmes prioritaires dans le domaine du tourisme. En accord avec le ministre Basuki, le ministre des Transports, Boudikaria Soumadi, a déclaré que cette coordination était nécessaire pour renforcer les nouvelles initiatives relatives aux fonctions commerciales, comme les investissements dans plusieurs zones stratégiques du tourisme national. La beauté Lombok Sumbawa fait la promotion en Australie. La beauté de l'île de Lombok et de l'île de Sumbawa dans l'ouest de Nusa Tenggara Ouest, NTB, ont été promues à Perth en Australie lors du festival indonésien qui se tient du 25 au 27 octobre 2019. Anita Ahmad, responsable de l'Agence régionale de promotion du tourisme du NTB, a déclaré que le festival indonésien d'une durée de 3 jours était une activité visant à commémorer le 70e anniversaire des relations diplomatiques de l'Australie. L'événement a été soutenu par le consulat général de la République d'Indonésie, KJRI, le ministère du tourisme et le gouvernement provincial du NTB, par intermédiaire du BPPD et de l'Office du tourisme. Dans une déclaration écrite reçue dimanche à Mataram, Anita Ahmad a déclaré que l'Australie était devenue un marché prometteur pour Lombok Sumbawa. Outre les vols directs déjà disponibles, l'Indonésie est une deuxième maison pour les touristes australiens. Il a examiné la proximité géographique et le potentiel du tourisme naturel et culturel, y compris la cuisine indonésienne, Sumbawa Lombok étant favorisée par les touristes. Politique des bourses d'études, Bidik Misi rend les ressources humaines vraiment supérieures en Papouasie. Le ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Enseignement supérieur, Kemendikbud Dikti, a été prié de poursuivre la politique spéciale consistant à fournir des bourses d'études Bidik Misi, ce qui a entraîné une augmentation des ressources humaines supérieures en Papouasie. La coordinateur de l'initiation des services d'enseignement supérieur Dikti de Papouasie et de Papouasie occidentale, Suriel S. Mofu Abiak, a répondu dimanche au rôle des jeunes dans la réalisation des ressources exceptionnelles lors de la commémoration de l'engagement de la jeunesse qui a eu lieu dans l'avancement des ressources humaines. Besoin d'une bourse Bidik Misi pour les étudiants dont les parents sont économiquement défavorisés. Elle a déclaré que le programme Nawachita du président Joko Widodo, qui avait fait de l'éducation aux ressources humaines un programme prioritaire pour le nouveau gouvernement inauguré à Jakarta le 23 octobre 2019, devait prêter attention à l'éducation de la jeune génération dans les provinces de Papouasie et de Papouasie-Occidentale. Les filles et le fils indonésiens sont devenus champions de la catégorie simple au tournoi Amman International. Les filles et les garçons indonésiens ont remporté la catégorie simple du championnat international junior d'Amman 2019 après avoir pu vaincre les matchs contre leur adversaire lors de la finale dimanche. Nadia Daneswara, qui a joué dans la catégorie de simple dames contre la chinoise Meng Keli, est une bataille difficile. Face à Li, qui comptait sur la force de son coup de poing, Nadia a été forcée de se rendre 1-6 dans le premier set. Nadia a amélioré son jeu au deuxième set, à paraître plus patiente. Nadia avait saisi un avantage de 4-1 avant que son adversaire n'a pas commencé à se révéler. Li avait réduit l'avantage de Nadia à 4-3, mais un certain nombre d'erreurs commises par son adversaire ont permis à Nadia de remporter une victoire de 6-4. Au troisième set, Nadia était à la traîne plusieurs fois, comme aux positions 2-3 et 3-4. Mais finalement, Nadia a clôturé le troisième set avec une victoire de 6-4. Gunawantris Muantara n'a pas eu beaucoup de difficultés à battre son compatriote Lucky Chandra Kurniawan dans la catégorie simple messieurs. Le joueur de Madura a remporté la victoire en 2-7, 6-3 et 6-0. Serge Littard, c'était les nouvelles. Bonsoir Serge Littard, voici le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « La jeunesse à l'ère technologique 4.0 », lu par Oudry. La jeunesse joue un rôle important dans l'histoire d'une nation. L'histoire montre que l'indépendance de l'Indonésie a été réalisée grâce au rôle de la jeunesse, grâce à l'insistance des jeunes qui ont enlevé Sukarno et Mohamed Atta à Ras Dengklok dans l'ouest de Java. L'Indonésie a ensuite proclamé son indépendance en 1945. En effet, le rôle de la jeunesse afin d'obtenir l'indépendance existait avant 1945. Depuis la création de l'organisation de jeunesse Budi Utomo en 1908 jusqu'à la tenue du premier et deuxième congrès de la jeunesse qui a abouti à une promesse connue sous le nom de le Sermon de la jeunesse. Le Sermon de la jeunesse qui a été lancé le 28 octobre 1928, est devenu l'instrument et l'encouragement pour le peuple indonésien à devenir indépendant. Avec l'annonce du Sermon de la jeunesse, la lutte qui a été menée dans chaque région pouvait être unifiée pour réaliser l'Indonésie indépendante. La jeunesse d'aujourd'hui est bien sûr différente de celle d'il y a 91 ans. Lorsque le serment de la jeunesse a été annoncé pour la première fois. Les jeunes d'aujourd'hui vivent à l'ère de la technologie 4.0, à savoir le rythme rapide, le rythme instantané et la technologie de l'information est tellement avancée. Comme les deux faces d'une pièce, le développement rapide de la technologie de l'information a des impacts positifs et négatifs. D'une part, la rapidité des technologies de l'information permet aux jeunes d'accroître leurs connaissances, de développer leurs ressources et de renforcer leur compétitivité. D'autre part, le développement des technologies de l'information a également un impact négatif si les informations reçues sont destructives, par exemple des informations sur le radicalisme. Pour cette raison, la jeunesse indonésienne aujourd'hui doit avoir de bons filtres, intelligents pour trier et choisir quelles informations sont utiles, qui sont moins utiles ou dangereuses. En outre, la jeunesse indonésienne aujourd'hui doit avoir un caractère fort, avoir la foi et la piété, avoir une grande intégrité, honnête, poli, être responsable, discipliné, ainsi que posséder des capacités intellectuelles et de leadership et être capable d'innover pour jouer un rôle actif au niveau international. La jeunesse est l'espoir et l'avenir de la nation et de l'État. Bonne fête de la journée du serment des jeunes. Serge Littard, c'était le commentaire. Serge Littard, voici aujourd'hui dans l'histoire avec moi Audrey. Le 28 octobre 1924, le collège de droit de RHS a été ouvert. Tereschugescul Batavia, généralement abrégé RHT Batavia, RHT Weltevreden ou RHS, a ouvert ses portes depuis le 28 octobre 1924 à Batavia. RHS est le collège de droit. Au début du XXe siècle, le problème de l'établissement d'un enseignement supérieur dans les Andes orientales néerlandaises faisait l'objet de débats houleux au sein de l'élite néerlandaise et des dirigeants de Bumiputra. Cela montre qu'il existe des doutes de la part du gouvernement colonial d'établir un collège dans les Andes orientales néerlandaises. Le 8 mars 1910, le gouvernement colonial a approuvé l'établissement de l'Indische Universiteit Vereniging, IUV, l'association de l'Université des Andes néerlandaises, qui, dans son statut, mentionnait que l'IUV visait à faire progresser, à créer et à gérer les collèges des Andes orientales néerlandaises. Après cela, le 3 juillet 1920, la Technische Hogeschoolte, école d'ingénieurs de Bandung, a été ouverte. Le gouvernement des Andes orientales néerlandaises a ouvert la RHS. Serge Littard, le 28 octobre 1928, le deuxième congrès de la jeunesse a eu lieu. La décision du deuxième congrès de la jeunesse tenu les 27 et 28 octobre 1928 à Batavia insiste sur l'idéal qu'il y aurait une patrie indonésienne, une nation indonésienne à une langue indonésienne. Cette décision a ensuite été connue sous le nom de le serment de la jeunesse, bien que ce terme n'apparaissait pas dans la décision du Congrès, mais il était donné après cette décision. Le serment de la jeunesse est une étape majeure de l'histoire du mouvement d'indépendance indonésien. Ce serment a été considéré comme une cristallisation de l'enthousiasme pour affirmer les idéaux de la création de l'État indonésien. Depuis le 29 octobre 1959, le gouvernement indonésien a désigné le 28 octobre comme la journée du serment de la jeunesse par le décret présidentiel numéro 316 de 1959 du 16 décembre 1959 pour commémorer cet événement. Chers auditeurs, 28 octobre 1955, c'est la naissance de Bill Gates. William Henry Bill Gates III est un homme d'affaires, un investisseur, un philanthrope, un écrivain américain et un ancien président-directeur général qui est actuellement président de Microsoft, la société de logiciels qu'il a fondée avec Paul Allen. Il a été classé en permanence parmi les personnes les plus riches du monde et classé premier de 1995 à 2009. Au cours des dernières étapes de sa carrière, Gates a fait plusieurs efforts philanthropiques en faisant de gros dons à diverses organisations de bienfaisance et programmes de recherche scientifique par l'intermédiaire de la Fondation Bill et Melinda Gates, créée en 2000. Charles de Littard, c'était aujourd'hui dans l'histoire.
Jambu luruh di kotamu, ku ayun sendiri langkah-langkah sepi, menikmati angin menabuh daun-daun, mencari gambaranmu di waktu lalu, sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa merenggut sukma, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud, aku tak bisa pindah ke ku harus menepi. Hiduplah ditambatkan berlabuh di pantaimu, sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa
chers auditeurs, c'était la chanson « Entre ta bisak lain hati » chantée par le groupe musical Club Project. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Chers amis de l'antenne, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie réforme 5 secteurs pour simplifier les affaires ». L'Indonésie est l'un des pays qui a le plus progressé dans le but de faciliter les affaires. Ceci est le résultat du rapport sur l'indice de facilité d'affaires publié par la Banque mondiale vendredi le 25 octobre. L'Indonésie a obtenu 69,6 sur 100 et s'est classée au 73e rang sur 190 pays. Cette note n'a pas changé par rapport à la réalisation de 2019, bien que la valeur ait augmenté d'un 64 points. Dans son rapport, la Banque mondiale a déclaré que l'Indonésie avait apporté des améliorations dans 5 des 10 secteurs qui sont devenus des indicateurs d'évaluation. Ce numéro est le deuxième au monde, équivalent au Myanmar et derrière la République populaire de Chine, où des améliorations ont été apportées dans 8 secteurs. L'un des indicateurs considérés comme meilleur en Indonésie est la facilité de commencer une affaire. L'Indonésie a apporté des améliorations en introduisant une soumission unique en ligne, facilitant l'acquisition de licences des affaires. Pendant ce temps, du côté de l'électrification, l'Indonésie a bien augmenté sa capacité d'approvisionnement en électricité. Des améliorations sont également apportées au système de maintenance du réseau électrique afin d'accroître la productivité du monde des affaires. En ce qui concerne les indicateurs de commerce transfrontalier, la Banque mondiale estime que l'Indonésie simplifiera davantage ce processus en améliorant le système de déclaration en ligne des marchandises pour les exportations. L'application par la loi des accords ou l'application des contrats est un autre secteur qui bénéficie d'une valeur positive. Cela se voit depuis l'émergence d'un système de gestion des affaires en ligne pour les usages. La Banque mondiale apprécie également le développement du système fiscal ou des aspects du paiement des taxes applicables à Jakarta et à Surabaya. L'Indonésie facilite le paiement des impôts en mettant en place un système de dépôt et de paiement en ligne pour les principales taxes. Cette réforme s'applique à Jakarta et à Surabaya. En ce qui concerne les échanges transfrontalières, des progrès similaires constituent également une valeur ajoutée pour l'Indonésie. La Banque mondiale estime que le commerce transfrontalier à Jakarta et à Surabaya est plus facile car le processus de déclaration en douane pour l'exportation utilise un système en ligne. C'était mon Indonésie pour ce soir.
Aku tak mau lagi berpikir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Tiga Salamu par Bunga Citra Lestari. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et les services locaux du peuple indonésien. Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous invitons à visiter Museum Sumpah Pemuda ou le musée du serment des jeunes. Soyez toujours avec nous, la Voix d'Indonésie, le service international de RRI. Chers auditeurs, le musée Sumpah Pemuda est un musée historique de lutte langue de pangdak indonésienne situé sur la rue Kramat Raya numéro 106 au centre de Jakarta et géré par le ministère de la Culture et du Tourisme. Ce musée possède des collections de photographies et d'objets liés à l'histoire du serment sur la jeunesse 1928 et aux activités du mouvement national de la jeunesse indonésienne. Le musée Sumpah Pemuda a été construit sur ordre du gouverneur de Jakarta en 1972 et devient un objet du patrimoine culturel national. Le bâtiment était un endroit où le serment de jeunesse était lu et c'était un refuge pour les étudiants. Le bâtiment a été rénové par le gouvernement régional de Jakarta le 3 avril au 20 mai 1973 et inauguré par l'ancien gouverneur de Jakarta, Ali Sadikin, le 20 mai 1973 sur le nom de Gedung Sumpah Pemuda. Le bâtiment a été réinauguré par le président Soeharto le 20 mai 1974. Chers auditeurs, en 2007, le nombre de collections du musée Sumpah Pemuda s'élève à 2867 pièces. Gedung Kramat numéro 106 est la principale collection où le 10e congrès de la jeunesse était planifié et organisé du 27 au 28 octobre 1928. Parmi les collections du musée se trouvent 2117 photographies d'activités d'organisation de jeunesse, 35 drapeaux de l'organisation, 11 statues représentant des jeunes, le violon de Wagerdorf Supratman, etc. Ces collections sont exposées avec l'arrangement qui suit la chronologie de l'événement du serment de jeunesse. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Demain, nous nous retrouvons avec un autre sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Semuanya telah terjadi.
cerita indah. Semusim telah kulalui, telah kulewati tanpa dirimu. Tetapi bayang wajahmu masih tersimpan di hati.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Marcel intitulée « Semusim ». Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc « Apprendre l'Indonésien ».
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission « Apprendre l'Indonésien », une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est minum obat 3 kali sehari. Je répète, minum obat 3 kali sehari. Ou en langue française, prendre des médicaments 3 fois par jour. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée minum obat 3 kali sehari, ou en langue française, prendre des médicaments 3 fois par jour. Tony était malade et un médecin l'a déjà examiné. Maintenant, il est dans une pharmacie pour acheter des médicaments.
Bapak Tony. Bapak Tony.
Ya, saya.
Ini obat untuk Anda. ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan.
Baik, berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
3 kali sehari, semoga lekas sembuh.
Terima kasih.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir minum obat 3 kali sehari, ou en langue française, prendre des médicaments 3 fois par jour. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase 2 fois, et vous pouvez les répéter après moi. Ya, saya. Ya, saya. En français, oui, moi. Ini obat untuk Anda. Ini obat untuk Anda. En français, ceci est le médicament pour vous. Ini obat diare. Ini obat mual. Dan ini vitamin. Ini obat diare. Ini obat mual. Dan ini vitamin. En français, c'est un médicament contre la diarrhée. C'est un médicament contre la nausée et c'est une vitamine. Minum obat ini setelah makan. Minum obat ini setelah makan. En français, prenez ce médicament après avoir mangé. Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? En français, combien de fois par jour devrais-je prendre des médicaments? 3 kali sehari. 3 kali sehari. En français, 3 fois par jour. Semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh. En français, guérissez bientôt. Si vous voulez demander de la fréquence des actions et dans un délai déterminé, posez des questions. Berapa kali sehari? Berapa kali sehari? En français, combien de fois par jour? Ou berapa kali seminggu? Berapa kali seminggu? Ou en français, combien de fois par semaine? Ou berapa kali sebulan? Berapa kali sebulan? Ou en français, combien de fois par mois? Ou berapa kali setahun? Berapa kali setahun? En français, combien de fois par an? Par exemple, berapa kali sehari saya harus minum obat ini? Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? En français, combien de fois par jour dois-je prendre ce médicament? Berapa kali seminggu Anda berolahraga? Berapa kali seminggu Anda berolahraga? En français, combien de fois par semaine fais-tu du sport? Voici des exemples de phrases indiquant la fréquence à laquelle vous faites quelque chose. Saya harus minum obat ini 3 kali sehari. Saya harus minum obat ini 3 kali sehari. En français, je dois prendre ce médicament 3 fois par jour. Saya berolahraga 2 kali seminggu. Saya berolahraga 2 kali seminggu. En français, je fais du sport 2 fois par semaine. Ensuite, pour donner des instructions sur la prise de médicaments, vous pouvez utiliser les expressions suivantes. Minum obat ini 3 kali sehari. Minum obat ini 3 kali sehari. En français, prenez ce médicament 3 fois par jour. Minum obat ini sebelum makan. Minum obat ini sebelum makan. En français, prenez ce médicament avant de manger. Ini antibiotik. Obat ini harus habis. Ini antibiotik. obat ini harus habis. En français, c'est un antibiotique. Prenez-le jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre mieux, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Bapak Tony.
Ya, saya.
Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan.
Baik, berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
3 kali sehari. Semoga lekas sembuh.
Terima kasih.
Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention. À demain.
Aku sudah tak bisa untuk menangis, dan aku sudah tak bisa untuk berkata, aku sudah tak bisa untuk mencinta selain dirimu.
Of Indonesia.
Sakit.
terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tempatmu kembali. Sebagai cinta
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Sadis, chantée par Citra Scholastica. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia avec moi, Tiwi, dans le magazine Musica. Cette édition, je vais vous présenter une chanson intitulée « Kecewa » ou en français « Déçu ». Cette chanson raconte des déceptions ou des tristesses parce que la pigeon s'est détachée et a disparu, bien qu'il ait continué à chercher, mais quand même il ne la rencontre jamais. La chanson intitulée « Kecewa » ou en français « Déçu » est une vieille chanson qui reste agréable à écouter. Surtout avec l'accompagnement de la musique de Kroncong. Bon, chers auditeurs, voici Yeni Arbian avec la chanson Kecewa ou en français Déçu. Bonne écoute!
Oh,
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.